tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, venez prendre part à votre émission Parano.
La parole est à vous.
Allô?
Oui, bonsoir, monsieur.
On dirait que monsieur, il essaie de minimiser
des sujets du quotidien ou d'actualité.
La parole est à vous.
C'est pas qu'on favorise, on est obligé d'aller vers ces gens-là.
Monsieur, qui vous oblige? Qui vous oblige?
Depuis l'an 2000, Kawas Controlling.
Votre avis nous intéresse.
C'est votre forum parano, 20h-22h, avec Adams.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la première. C'est avec joie et plaisir que je vous retrouve ce soir autour de votre forum parano, comme tous les soirs, du lundi au vendredi. François Moissouli et El Hadj à la technique. Et moi, sommes ravis de vous accompagner sur les ondes de la première. Alors ce soir, nous accueillons dans notre émission Parano la chargée de l'émission France Alzheimer, Madame Zalia Hamada Faki, la neurologue directrice du réseau Aloïs, Madame Bénédicte de Fontaine, la présidente de l'association France Alzheimer, Mayotte, Madame Sitina Anli, et nous avons pour thème la journée mondiale de l'Alzheimer qui se déroulera dans la commune de Chiconi. Chères auditrices, chers auditeurs de la première, je vous invite à suivre et à participer à cette émission où vos réactions seront bienvenues par téléphone au 02 69 60 0101 pour vos appels et au 06 39 69 67 67 pour vos SMS. Cette émission sera enregistrée et vous aurez la possibilité de réécouter cette émission à tout moment. La première. Alors avant de vous retrouver dans quelques minutes pour la suite de notre émission, je vous propose tout simplement de patienter en musique avec cet extrait de Ghulam Mama et nous nous retrouvons à tout de suite.
Mama, 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 mama Mama kako paranzinzi za mitana wala za mauku jiti hati pia waeka kosadza siangi na uke mundu hautumaini meso umutowe mwazitambu shetani asihushinde hata mwiso waho wando jilumu
nari wavekula shisho hata
iyo haki yao
tenari siwahini nguvu za mwili zao
mbivu ya tu ya mindru ni hao nari wavishi ushao risiwa hote ziro huzao na hana miso yao aparwa na asara ukamuta hawa he mama mana katoka shindu ukahayati hae daima aparwa na asara ukamuta hawa he mama mana katoka shindu ukahayati hae daima mama mama wawe mlezi wa dunia mama mama jema zao ziraraya Dalla mama 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 tulia mama mama demuro wisaushia mama 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 tulia mama mama demuro wisaushia mama yo nuru ya mahaba mama kati wa ugaratu ya dunia mama
Merci à Goulam pour cet extrait intitulé « Mama ». Bonsoir à tous et bienvenue sur la première. Vous qui venez de prendre l'antenne à l'instant, nous recevons ce soir dans notre émission « Parano » la chargée de mission de France Alzheimer, Madame Zalia Hamada Faki, la neurologue et directrice du réseau Aloïs, Madame Bénédicte de Fontaine, la présidente de l'association France Alzheimer, Madame Sitina Anli. Et nous allons parler de la journée mondiale de l'Alzheimer qui se déroulera dans la commune de Chiconi. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Merci d'avoir honoré notre invitation et d'avoir répondu présent. La première. Le handicap cognitif ne se voit pas. Dans une société qui accélère toujours plus, difficile pour une personne atteinte d'Alzheimer de suivre le rythme et d'affronter la rue. Oui, elle mettra quelques minutes de plus en caisse à la poste ou au distributeur. La journée mondiale de lutte contre la maladie de l'Alzheimer se déroulera à la Chiconi ce samedi 21 septembre 2019. Personne n'est indifférent. On peut être surpris, désarçonné, troublé, mais pas indifférent face à celles et ceux qui vivent cette maladie éprouvante. Et si porter un symbole de bienveillance était une manière de dire oui, je te comprends et je te respecte dans ta dignité. Chère auditrice, chers auditeurs de la première, vous êtes bienvenus pour participer à cette émission et nous attendons vos réactions au 02 69 60 01 01 pour vos appels ou par SMS au 06 39 69 67 pour vos SMS. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée et que vous avez la possibilité de réécouter cette émission en podcast. Et pour débuter cette émission, je propose la parole à mes invités, manière qu'ils puissent se présenter. On commence par la présidente.
Bonjour, je m'appelle... Bonsoir Mayotte, bonsoir la population, bonsoir les parents, parce que ça, je dois insister vraiment, parce que la chanson tout à l'heure me dit beaucoup de choses envers les parents. Et aujourd'hui, si on est là... C'est pour vous inviter, pour vous appeler à combattre cette maladie et on est là pour vous. Merci.
On tourne la parole à Madame la neurologue.
Bonsoir, merci de m'avoir invité à cette émission. Alors je suis neurologue, c'est-à-dire médecin spécialisé dans les maladies du cerveau et je suis particulièrement spécialisée dans les troubles des fonctions intellectuelles et après l'âge de 50 ans, la maladie d'Alzheimer est la maladie la plus représentée.
Alors notre chargée de mission France Alzheimer, Madame Zalia Hamada Faki.
Bonsoir, bonsoir la population de Mayotte et merci de nous avoir invités ce soir.
Alors, quelle est cette maladie de l'Alzheimer? Est-ce que vous pouvez nous présenter plus ou moins cette maladie?
Alors, cette maladie est une maladie qui a été décrite en 1906 par un psychiatre allemand qui s'appelait Alois Alzheimer. C'est une maladie du cerveau qui, dans le cerveau se forment des lésions qui sont caractéristiques de la maladie et qui engendrent des troubles intellectuels qu'on appellera des troubles cognitifs associés à des troubles du comportement. Ces lésions sont caractéristiques et pour l'instant, malheureusement, c'est une maladie incurable. Mais tout l'enjeu et tout le travail qu'on fait ici et avec le réseau Alois dont vous avez cité tout à l'heure que j'ai créé en 2004, c'est de faire un diagnostic le plus précoce possible de la maladie d'Alzheimer parce que si elle n'est pas curable, il est possible de prévenir la dégradation et donc de retarder l'entrée dans la dépendance. Je rappelle simplement que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui concernera le patient mais aussi la famille. Donc c'est très important de faire un diagnostic le plus précoce possible pour ménager le patient et aussi la famille.
Alors vous venez de nous dire à l'instant que cette maladie, elle est incurable. Quelle est la difficulté du fait que cette maladie soit incurable?
Alors ça fait plusieurs années, dizaines d'années, je dirais même que les chercheurs cherchent à détruire les lésions de la maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, il n'y a aucune piste thérapeutique qui n'est aboutie. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est de poser un diagnostic le plus précoce possible pour pouvoir retarder l'évolution. Et donc là, on parle de prévention secondaire. Donc c'est un peu tout l'enjeu de la mission ici que nous effectuons à Mayotte aujourd'hui, avec le réseau, avec moi-même et le neuropsychologue du réseau Alois. Pourquoi on n'arrive pas à trouver la cause de la maladie d'Alzheimer? C'est compliqué. C'est une maladie qui a sûrement une grosse participation génétique. Il y a des formes génétiques, des formes familiales. Il y a aussi des facteurs de risque génétiques. Donc on s'approche de plus en plus, on connaît de mieux en mieux la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, mais on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore décodé l'ensemble de la chaîne biologique qui part du gène et qui arrive à la lésion et donc à l'expression des symptômes après. On sait de plus en plus de choses, mais on ne sait pas comment exactement se déclenchera, pourquoi chez telle personne, même si on approche de plus en plus du but. Mais on a du mal à trouver un traitement curatif.
Mais pourquoi c'est aussi compliqué?
D'abord, le cerveau est un organe qui est compliqué d'accès, hein, contrairement à tous les autres organes. Il est enfermé dans une boîte crânienne, osseuse. Donc pendant longtemps, il a été mal connu. Maintenant, tout le monde sait, même dans le grand public, que le cerveau est composé de neurones, c'est-à-dire de cellules identifiées les unes des autres. Mais ça, on le sait depuis 1900. C'est quand même pas si récent que ça. Et pendant très longtemps, la maladie d'Alzheimer a été donc décrite en 1906. Et pendant très longtemps, les fonctions intellectuelles ou la cognition, les sciences cognitives étaient pas tellement enseignées. C'est quand même des sciences qui sont relativement jeunes, qui ont à peu près une quarantaine d'années, et qui sont rentrées dans le grand public. On s'y intéresse vraiment depuis vraiment 15 ans. Bon, les chercheurs, eux, travaillent depuis beaucoup plus longtemps, bien entendu. La recherche reste toujours très active. Mais on n'a pas encore, même avec les nouvelles technologies, les nouveaux moyens, les IRM, les scintigraphies, avec des traceurs spécifiques, on n'a pas encore identifié le chaînon manquant qui permet d'avoir l'ensemble du code de la maladie. On a de plus en plus d'éléments qui permettent de comprendre comment elle s'exprime, comment retarder l'expression, comment moduler l'expression, d'où l'intérêt de faire un diagnostic le plus précoce possible. On a des traitements symptomatiques qui sont sortis dans les années 1995 et qui ont été déremboursés en été 2018. Malheureusement, puisqu'il y avait une certaine efficacité au début de la maladie, il n'y avait aucune efficacité au stade sévère. Or, comme les patients sont malheureusement vus encore trop sévèrement, on avait l'impression que ces traitements n'étaient pas efficaces. Mais au stade sévère, au stade léger, par contre, nous, les neurologues, qui voyons ces patients assez tôt et assez jeunes, le plus, on voit bien qu'il y avait un retard dans le déclin chez des patients quand ils étaient traités. D'autre part, ce qui est important aussi, c'est que l'avantage de faire un diagnostic précoce, même si la maladie est incurable, c'est qu'on peut, même sans médicament, mettre en place des stratégies qui vont permettre à la personne de garder son autonomie le plus longtemps possible, et des stratégies qui vont permettre à l'environnement, à l'aidant principal en particulier, de se protéger pour accompagner au mieux la personne malade et d'éviter le plus possible de tomber dans un épuisement. Parce que si on ne fait pas attention, c'est ce qui se passe. L'aidant finit par tomber dans un épuisement et peut tomber malade avant même, plus gravement, enfin, d'une certaine façon, que le patient. Et là, le patient se retrouve dans des difficultés encore plus grandes.
Et du coup, quelle est l'incité de pouvoir mettre une stratégie en place? Cette stratégie va-t-elle permettre, d'une part, d'accompagner le malade, si je peux me permettre de le dire, mais aussi l'aidant?
Oui, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que, encore une fois, l'intérêt de cette maladie qui reste incurable, de faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire au moment où la personne se plaint de ses fonctions intellectuelles, il est important qu'elle aille consulter. Ne pas attendre. Il vaut mieux consulter et s'entendre dire que finalement c'est pas une maladie d'Alzheimer, bah tant mieux. Plutôt que de laisser attendre trop longtemps, et parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut pas récupérer ce qu'on a perdu. On peut, si on fait un diagnostic très précoce, essayer de maintenir la personne au niveau où on l'a diagnostiqué, en lui proposant des programmes de réhabilitation cognitive avec une orthophoniste ou avec un neuropsychologue, ou les deux, idéalement. On peut lui proposer de la prise de traitement symptomatique dont je parlais tout à l'heure, et on peut aussi lui proposer d'être inclus dans un protocole de recherche, pour justement, d'une certaine façon, pour faire avancer la recherche, et ce qui permettra au patient suivant, si on arrive à trouver un médicament, d'en bénéficier. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est de prendre en charge d'emblée la famille, et en particulier l'aidant principal, c'est-à-dire la personne qui soit vit avec le patient, soit, si le patient est seul, s'occupe de lui. En général, c'est la fille du patient, et sont des, ou la femme, et ce sont des personnes qui font ça bénévolement. Donc, si c'est la fille du patient, le plus souvent, elle est en activité, et il se peut qu'elle ait elle-même des enfants. Donc, c'est un peu une génération, attention à ça, une génération pivot, qui porte les parents âgés d'un côté et les enfants qui sont souvent adolescents de l'autre côté, et qui est en activité. Donc, ça, si on ne fait pas un diagnostic précoce de cette affection, l'aidant principal peut se retrouver en difficulté, en grande difficulté, arrêt de travail. C'est tout le monde qui en pâtit, la société aussi, puisque la personne va se retrouver en arrêt de travail. C'est donc d'où l'intérêt de faire un diagnostic très précoce de cette maladie encore incurable.
Alors, de quelle manière on peut se permettre de pouvoir poser un diagnostic? Et qui à la capacité, la possibilité de pouvoir poser ce diagnostic?
Alors, le diagnostic, il est posé par le médecin. Pour plus le diagnostic, plus les troubles sont légers, plus on a besoin de temps et d'examen pour poser un diagnostic. À un stade très précoce, quand la personne se plaint de ses fonctions intellectuelles et de sa mémoire en particulier, il est fondamental de faire un examen de ses fonctions intellectuelles, un examen neuropsychologique pour définir un peu quelles fonctions sont atteintes. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a un profil particulier qui va permettre au médecin de poser le diagnostic. D'autre part, il faut, surtout si la personne est relativement jeune, donc le médecin recevra le bilan neuropsychologique, va lui-même faire un examen neurologique en posant des questions adaptées. C'est un entretien semi-structuré qu'il va conduire, qui lui conduira également, s'il y a un doute sur l'existence d'une maladie dégénérative, de prescrire une imagerie, en particulier une IRM cérébrale, pour avoir une vision des hippocampes, qui sont des régions situées dans les lobes temporales internes où démarrerait la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire les lésions démarreraient là. Cette région de l'hippocampe est composée de neurones qui enregistrent les informations au moment où elle se passe et dans l'unité de lieu où elle se passe. Il y a aussi une sorte de GPS dans ces neurones. Et le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a des lésions dans cet hippocampe, dans les hippocampes. Et les lésions, elles vont ensuite de se disséminer dans certaines zones du cerveau, pas dans toutes les zones du cerveau. Hein. C'est pas une maladie qui touche tout le cerveau. C'est une maladie qui touche une partie du cerveau, la partie qu'on appellera le cortex associatif. Mmh. Et ça va diffuser petit à petit, ce qui fait que au début, il s'agit d'une maladie de troubles de la mémoire, et petit à petit, avec des troubles du comportement associés qui sont très discrets au début, avec une apathie, plus envie de faire ce qu'on aimait faire avant. Et d'autres troubles cognitifs vont apparaître, avec des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance des objets, des lieux, des visages, une difficulté à effectuer des gestes simples, ou plus complexes et puis simples. Voilà.
Et quelle est la particularité de ces lésions? Qu'est-ce qu'elles peuvent provoquer, ou voire même endommager?
Elles endommagent justement les régions dont je viens de vous parler, l'hippocampe en premier lieu, et puis ça va diffuser l'ensemble du cortex associatif. Et le problème de ces lésions, c'est qu'elles vont... Il y a deux types de lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Une lésion à l'intérieur des neurones, qu'on va appeler la dégénérescence neurofibrillaire, qui vont... il faut imaginer qu'ils sont composés de protéines tau. Donc pour bien comprendre ce qu'est une dégénérescence neurofibrillaire, la protéine tau qui les compose se modifie... parce qu'elle devient très phosphorylée. Et cette protéine tau transporte d'un neurone à un autre, en passant par la synapse, un neuromédiateur. Quand elle est hyperphosphorylée, elle ne peut plus transporter ces neuromédiateurs, et donc c'est un problème de communication entre deux neurones qui va se passer.
En langage simple, c'est le message qui ne passe pas.
Le message ne passe pas, premièrement. Deuxième lésion, la plaque sénile. La plaque sénile est composée d'une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, qui, elle, est à l'extérieur du neurone et qui s'agrège dans le cas de la maladie d'Alzheimer, alors qu'elle est soluble dans les cerveaux normaux, enfin, sans Alzheimer. Et donc, elle va, par son agrégation, elle va interrompre également la communication entre les neurones. Il va en résulter une mort des neurones, dont les axones, c'est-à-dire les branches qui, les autoroutes, qui sortent des corps cellulaires pour transporter l'information. Du coup, comme l'autoroute est coupée, le neurone lui-même ne va plus être alimenté et va mourir. Alors, pourquoi c'est important de faire un diagnostic précoce? Puisqu'il reste dans le cerveau des gens, y compris malades, la possibilité de créer des routes parallèles, ce qu'on appelle la réserve synaptique. Plus la réserve synaptique est développée, plus les personnes, quand elles ont, même si elles ont des lésions sur les autoroutes ou sur les petites routes, si elles ont une réserve synaptique, c'est-à-dire des routes parallèles pour arriver au même endroit, n'exprimeront pas les symptômes. Donc, c'est très important de faire un diagnostic précoce, puisque on peut mettre en place des stratégies qui vont permettre à la personne de faire travailler son cerveau d'une certaine façon pour développer ou renforcer la réserve synaptique et donc ne pas continuer à exprimer les symptômes. L'idéal, évidemment, ce serait de le faire bien en amont de l'expression des premiers symptômes. Donc, je vous invite tous à faire travailler votre cerveau et vos méninges dès maintenant. Et alors, dès le plus jeune âge.
C'est très très bien tout ça, c'est tellement bien décrit que on en perd les mots. Et du coup, avant de pouvoir poser ce fameux diagnostic, quels sont les premiers symptômes qui peuvent nous permettre de, pourquoi pas, d'aller consulter pour voir si il n'y a pas de difficulté au niveau de ces, vous m'avez ôté le mot tout à l'heure, les hippocampes.
Les hippocampes.
Voilà.
Oui, alors les premiers symptômes, en général, les personnes qui développent une maladie d'Alzheimer, le plus souvent, se rendent compte qu'il y a leur fonctionnement intellectuel, ils ne reconnaissent pas leur fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance à leur fonctionnement intellectuel de façon transitoire au début, c'est pas permanent. Il y a quelque chose qui est cassé dans le fonctionnement intellectuel. Alors ça peut se manifester aussi par un oubli. Par exemple, un oubli majeur, un oubli malin, on va appeler par opposition un oubli bénin, on a le droit d'oublier, heureusement d'ailleurs qu'on oublie des choses, sinon on ne pourrait plus réfléchir, on ne pourrait plus penser, si on avait tout accessible, on ne pourrait plus penser. Donc on a l'oubli est salutaire. Mais l'oubli malin est au contraire pathologique. Donc il y a des choses qui sont... Un oubli malin, par exemple, c'est d'oublier quelque chose qui est très chargé émotionnellement, premièrement, comme par exemple oublier que son conjoint est décédé, ou alors oublier quelque chose qui était très répétitif et routinier.
Quotidien.
Quotidien, répétitif, ou pas forcément.
Pas forcément.
Par exemple, annuel, un homme avait l'habitude d'offrir tous les ans...
Un anniversaire, par exemple.
Un anniversaire de sa femme, un bouquet de fleurs tous les ans, et cette année-là, il ne l'oublie pas. Il ne lui offre pas. Ça, c'est un symptôme qui doit... on doit tirer la sonnette d'alarme à ce moment-là. Et d'ailleurs, moi, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis neurologue et je reçois des patients qui se plaignent de leur fonction cognitive. Le plus souvent, ils arrivent, ils sont encore relativement autonomes, au stade léger, très léger. Ils se plaignent, ils ont une plainte parce qu'ils ont eu des oublis qui les ont inquiétés, qui leur ont porté éventuellement préjudice, un oubli dans le cadre de la profession ou dans un rendez-vous fondamental ou dans un oubli familial, mais important, qui les a marqués. Donc, ils consultent à ce moment-là. Et dans ces conditions, il faut les écouter. On a un entretien, on pose des questions. Il y a des facteurs de risque de la maladie, donc on les recherche. Il y a des facteurs protecteurs, on les recherche. Et puis, quand on veut vraiment poser un diagnostic pour savoir si la personne a une maladie d'Alzheimer ou pas, on propose un bilan neuropsychologique après l'examen neurologique. On propose la prescription d'une IRM ou d'un scanner centré sur les hippocampes. Et éventuellement, alors maintenant, on peut aller jusqu'à la scintigraphie cérébrale. Et même, on peut faire des ponctions lombaires, dans certains cas, à la recherche pour doser certains marqueurs, biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien qui vont orienter vers le diagnostic de maladie d'Alzheimer.
Alors avant de prendre un auditeur, par téléphone au 600101, moi j'aimerais connaître quelle est la situation de cette maladie sur le territoire de Mayotte.
Alors, comme partout, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui... Enfin, les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, est une maladie qui augmente avec l'espérance de vie de la population. Donc, comme l'espérance de vie de Mayotte augmente et continue d'augmenter, la maladie d'Alzheimer va devenir de plus en plus fréquente. Ce que je trouve bien dans ce qui se passe à Mayotte, c'est que l'association France Alzheimer là met en place déjà depuis un an une consultation qui existe dans le siège de France Alzheimer où les personnes qui se plaignent de troubles cognitifs peuvent bénéficier d'un bilan neuropsychologique en visioconférence. C'est effectué par les neuropsychologues du réseau Aloïs, dont on parlait tout à l'heure. Le bilan neuropsychologique est toujours revu par un neurologue, ce qui permet de proposer, si la personne a un profil qui fait penser à une maladie d'Alzheimer, de poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, éventuellement avec une IRM ou un scanner ou pas. Si le neurologue le juge non nécessaire, il n'est pas forcément nécessaire de faire une IRM ou un scanner. Donc, on a cette possibilité à Mayotte maintenant d'avoir la possibilité d'avoir un diagnostic précoce. Donc, profitez-en. C'est pas la peine de. C'est surtout le territoire à Chiconi, sur le siège
de France Alzheimer.
De France Alzheimer. Donc, ça se passe. La personne arrive et il y a toujours un assistant à côté de la personne qui va la guider pendant toute la passation du test. De l'autre côté de l'écran, il y a le neuropsychologue qui, lui, va lui faire passer des tests. Au terme de ces tests, on a un profil neuropsychologique. Ce profil va être analysé par le médecin qui va permettre de poser un diagnostic.
Et c'est à partir de quel âge qu'on peut faire ce fameux diagnostic ?
On peut faire on peut poser le diagnostic de la maladie d'Alzheimer à partir du moment où il y a une plainte. Alors, le plus souvent, c'est après 50 ans quand même, ou 60 ans. Mais malheureusement, dans les formes génétiques, la maladie d'Alzheimer arrive avant 60 ans.
Alors, moi j'ai une question qui me turlupine un peu. Est-ce que cette maladie, elle est héréditaire ?
Il y a des formes héréditaires, oui. Ce sont des formes qui surviennent avant 60 ans, des formes jeunes, qui se transmettent. Si un des deux parents a la maladie, chaque enfant a un risque sur deux d'avoir la maladie. Donc ça, c'est quand même assez fréquent. Il y a des familles donc de maladies d'Alzheimer familiales. Et puis, pour les autres maladies, il y a des facteurs de risque génétiques. Et il y a d'autres types de facteurs de risque, et en particulier l'hypertension artérielle. Alors, on parlait de Mayotte en particulier. Mayotte en particulier, c'est différent de la métropole, puisque la maladie la plus fréquente à Mayotte qui donne des troubles cognitifs n'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie, la démence vasculaire.
D'accord.
Et c'est important de le signaler, puisque cette démence vasculaire, on peut la prévenir.
Quelle est la différence entre les deux ?
Dans la démence vasculaire, les patients ont des lésions qui sont des accidents vasculaires.
Donc notamment les AVC ?
Des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et les AVC, à force de faire des AVC, ont fini par développer des troubles cognitifs, et qu'on appellera une démence vasculaire. Ces AVC surviennent bien avant l'âge de l'Alzheimer, qui survient plus tardivement, vers 60-70 ans. L'AVC peut survenir plus tôt. Le problème aussi de l'AVC, c'est que quand la personne a un accident vasculaire cérébral, elle va détruire une partie de son cerveau, et donc consommer la réserve synaptique dont on parlait tout à l'heure, et donc éventuellement exprimer la maladie d'Alzheimer encore plus tôt. Donc, à Mayotte, toute la problématique et le travail serait de commencer, parce que maintenant on s'est rendu compte que depuis un an, on a monté cette consultation mémoire, on s'est rendu compte que la cause la plus fréquente de démence, c'est la démence vasculaire. Donc, pour continuer à avancer, il est important de lancer une campagne de prévention des facteurs de risque vasculaire, et en particulier de l'hypertension artérielle, qui est très très répandue chez les patients qui consultent pour des troubles cognitifs. C'est la cause la plus fréquente.
Alors, les AVC commencent à devenir un peu en vogue à Mayotte. Donc, de plus en plus, certaines personnes commencent à déclarer. Moi, j'ai connu des gens dans mon entourage, jeunes et un peu plus âgés, qui ont eu ces AVC de manière assez...
Brutale.
Brutale.
Un AVC survient brutalement.
Et du coup, le fait est que ces personnes ont eu l'a eu assez jeune, je veux dire aux alentours des 40 ans, ou même avant 40 ans, est-ce que cette personne a cette possibilité de pouvoir développer la maladie de l'Alzheimer ?
Malheureusement, oui. C'est bien pour ça qu'il faut prévenir la survenue des AVC. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait des accidents vasculaires cérébraux, le plus souvent sont des infarctus du cerveau. Donc ça détruit des petites zones du cerveau, plus ou moins grandes d'ailleurs. Et donc ça consomme... la réserve synaptique, donc la personne peut, si une maladie d'Alzheimer allait par ailleurs se déclarer, ben elle se déclarera beaucoup plus tôt. Et avant même ça, l'accident vasculaire cérébral, s'il est situé dans une zone, par exemple, une zone où l'hippocampe se situe, ben là, on aura des troubles de mémoire. Une zone dans la zone frontale, il y aura des troubles du gauche, il y aura des troubles du langage. Donc l'AVC, s'il est situé dans une zone stratégique cognitive, va entraîner lui-même des troubles cognitifs par sa propre localisation.
Alors on va rappeler à l'ensemble de nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de pouvoir nous appeler au 60-0-101 s'ils ont des questions, s'ils veulent participer à cette émission. Mais en même temps, on va rebondir un peu sur vos dires. Quelle est la particularité des AVC et comment on peut prévenir des AVC ? Dans notre société actuelle, c'était une chose qui était méconnue. De plus en plus, on prône vers la mondialisation, vers l'évolution de la société, vers l'émancipation. Mais derrière tout ça, il y a une espèce de un poids de la société qui nous pèse. Donc, ce qui fait que on constate que de plus en plus de jeunes tendent à avoir des AVC assez fréquemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prévenir de tout ça ?
Prévenir les accidents vasculaires cérébraux, ça passe par prévenir, s'occuper des facteurs de risque vasculaire. Le facteur de risque vasculaire, en particulier le facteur de risque celui qui expose le plus à l'accident vasculaire cérébral, c'est l'hypertension artérielle. Donc, il est important de se faire dépister, de se faire prendre l'attention régulièrement. S'il y a une hypertension artérielle, il faut la soigner. Et en général, c'est un traitement à vie. Donc, c'est une mentalité qu'il faut mettre dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on prend un médicament, même si on ne se sent pas malade. C'est une manière de faire de la prévention. C'est la seule manière, d'ailleurs, de faire de la prévention des accidents vasculaires. De faire de la prévention des facteurs de risque vasculaires, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabagisme et la sédentarité. Bon. Tout ça doit rentrer dans la tête des gens. C'est-à-dire que c'est une mentalité à avoir. Prendre un traitement si on est diabétique, prendre régulièrement. Prendre un traitement si on est hypertendu, régulièrement. Ne pas l'arrêter, même si on se sent bien. Parce que c'est ce qu'on constate ici souvent à Mayotte, c'est-à-dire que les personnes arrêtent le traitement antihypertenseur parce qu'elles vont mieux, et l'hypertension artérielle revient. Et donc là, l'AVC vient. Donc c'est toute cette mentalité qu'il faudrait faire prendre conscience aux personnes vivant à Mayotte que il est important de traiter l'hypertension artérielle, qu'elle soit contrôlée. C'est la meilleure façon d'éviter l'AVC. D'avoir une activité physique également adaptée, régulière.
Qu'est-ce que vous entendez par adaptée?
C'est-à-dire adaptée à la personne.
À la personne.
Oui, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques.
Tout à fait. Mmh.
Certains, on peut faire une heure de sport par jour, d'autres une heure par semaine.
D'autres vont préférer aller marcher, par exemple.
Alors, quand ils choisissent de choisir le sport, évidemment, certains préfèrent nager, d'autres marcher, d'autres courir, d'autres adapter, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit adapté pour que la personne le fasse. Si on lui dit, si on propose un package tout fait, c'est pas pour que ça marche, ce n'est pas adapté, ça ne se fera pas.
Est-ce qu'on peut dire que le stress fait partie des facteurs qui peuvent déclencher ces fameux AVC, notamment ?
Le stress, il existe partout, de tout temps, il est inéluctable. On ne peut pas vivre dans la société sans stress. Le stress peut être bénéfique, et ça c'est très bien, il peut être aussi mauvais. Donc un stress chronique, un stress aigu, bon... Ça, c'est bien, ça peut être stimulateur, ça peut être ou pas, ou le contraire. Ça peut être soit stimulant, soit déprimant. Mais on peut passer. Un stress chronique, oui, va finir par engendrer des dégâts, oui.
Alors, moi, je m'adresse maintenant à Madame la Présidente. Quelle est la complexité de cette maladie sur notre territoire?
Moi, je dis que tout d'abord. Il y a la population, il faut d'abord se laisser montrer et nous donner la peine de dire que tel entourage à côté est malade. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on dit que Mayotte a beaucoup de malades, des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, mais on cache.
D'accord.
Donc, ce qui est très compliqué, c'est que on ne sait pas ou on a honte de dire que tel proche est malade et qu'on n'ose pas le montrer. Donc, c'est surtout ça. Et si on le cache, donc ça devient très dangereux parce que notre combat maintenant, c'est de dire et d'inviter et d'appeler les aidants, parce que c'est surtout là, j'insiste beaucoup sur les aidants, comme a dit notre neurologue, que certes, il y a le malade, mais les aidants qui en souffrent beaucoup. Et que si on cache cette maladie et si on n'ose pas aller devant les psychologues, les neurologues, les neuropsychologues qui nous informent qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, la manière dont on accompagne le malade, ça c'est très dangereux. Donc moi j'invite ceux qui ont les personnes malades chez eux, sortir cette honte-là, venir nous rejoindre. À chaque fois, il y a même au mois de décembre, là, cette semaine, on avait deux sessions de formation. Il y avait au sud, il y a aussi au nord, à Mjago et à Kankeli. Donc, ceux qui viennent là, ils ne regrettent pas. Parce que moi-même, en tant qu'aidant et présidente aujourd'hui, moi, j'ai passé par là. J'ai pleuré. Mais maintenant, je ne pleure plus.
Vous êtes ouverte. Vous êtes
très
libérée.
Ouverte,
est-ce qu'on peut dire
que
vous êtes libérée?
La première fois que je suis venue au plateau.
Je me souviens d'ailleurs.
Et il y avait même, j'ai fait pleurer tous les gens qui étaient ici. Et maintenant, j'ai suivi la formation. J'ai suivi les conseils partout. Et maintenant, je sais. Et je m'aime aider les autres qui sont vraiment stressés, qui s'embrouillent dans leur tête comment je vais vivre avec. Le malade ou comment je vais vivre avec ma mère ou mon père qui est malade ou même mon frère parce que cette maladie-là, on peut avoir aussi des maladies jeunes que les frères aussi ont atteint de l'âge de 30 ans ou 40 ans. Donc ça, c'est ce que Mme Bénédicte a dit tout à l'heure, que là, on peut avoir aussi des maladies jeunes. Mais donc, aujourd'hui, il ne faut pas cacher. Parce que c'est le temps ou jamais. Parce que nous, on a eu la chance maintenant, on a la téléconsultation. Donc, ceux qui peuvent se déplacer, ils peuvent venir à Chukuni. Mais ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils ont les aidants à côté. Donc, ces aidants-là, ils nous appellent et on vient sur le lieu. Et avec les docteurs, c'est certes, on peut pas tout faire. Mm-hmm. Certes, pour l'instant, il n'y a pas de médicament qui peut guérir. Mais on peut combattre. Comme elle a dit, ça ralentit. Parce que les aidants qui sont avec les malades là, ils s'affolent. Parce que cette maladie là, je vous jure, c'est mon vécu. Il y a 4 ans plus. Mm-hmm. Chaque jour, et à chaque heure, ça change. Ça évolue. Et ça évolue très vite. Et chaque jour, le malade, là, il te montre autre chose.
D'accord, d'autres facettes.
Surprises. Mmh. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire que là, aujourd'hui, ou ben, pendant tout le mois, pendant toutes les semaines, tous les mois, que ma mère ou mon père ou mon frère, il stagne, il fait seulement ses quotidiens comme ça. Non. Chaque jour, il a autre chose. Et c'est très difficile, surtout quand ce malade-là, il est agressif. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, il est agressif. Des fois, il est souriant. Des fois, ça change tout le temps la couleur et le comportement de cette maladie.
Alors, je vous propose de prendre un auditeur au téléphone et nous allons écouter sa question. Bonsoir, bienvenue sur la première. Vous êtes...
Allô?
Oui, bonsoir monsieur, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je voulais poser une question, s'il vous plaît, au médecin qui est là.
Mm-hmm. On vous écoute.
J'ai ma maman, mm-hmm. Elle a dans les 53, mm-hmm. elle oublie beaucoup trop vite en fait. On peut la dire quelque chose et 5 minutes après, elle oublie et c'est fréquent. Est-ce que ça peut être un signe ça ou pas? Est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Alors, je vous invite à rester avec nous dans le cas où si vous aurez d'autres questions que vous souhaitez rajouter. Merci à vous. Alors, Madame Bénédicte, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet auditeur?
Donc oui, effectivement, si elle oublie, si j'ai bien compris, elle oublie ce que vous venez de lui dire, ce qui vient juste de se passer, l'effet récent. Et donc ça, oui, ça justifie d'aller un peu plus loin. Parce qu'à 53 ans, alors il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, hein, mm-hmm. Donc déjà rassurez-vous, rassurez-la. Et justement, une façon de savoir si c'est la maladie d'Alzheimer ou pas, c'est de faire une évaluation intellectuelle, neuropsychologique. Donc, typiquement, elle pourrait se rendre à Chukuni pour bénéficier de cette téléconsultation, si elle est d'accord. Parce que si c'est pas la maladie d'Alzheimer et que ça se soigne, qu'elle ne reste pas avec ça, puisque ça doit pas être très agréable. Et si mais à 53 ans, c'est quand même rare de développer une maladie d'Alzheimer. C'est possible, bien sûr, mais c'est rare. Et ça supposerait qu'il y en ait dans la famille, alors, si c'était le cas.
Non, dans la famille, c'est généralement des AVC. Ouais. On a eu 3-4 cas dans la famille.
Mon avis, c'est que elle consulte. Elle serait d'accord pour consulter?
Oui, elle serait d'accord.
C'est ça qu'il faut faire, oui, parce que oublier immédiatement ce qu'on vient de lui dire trop fréquemment, c'est ce que vous dites là, ça vaut le coup de consulter, véritablement, parce que ça, on pourra lui proposer quelque chose. Son dossier va être revu par un neurologue, de toute façon, et à l'issue du bilan neuropsychologique. Et donc je vous invite à ce qu'elle aille à Chukuni.
Ce samedi.
À Chukuni, vous dites ?
Oui.
C'est à Chukuni, oui, mmh. Dans les locaux de l'association France Alzheimer.
On peut même vous donner le numéro de téléphone du siège.
Ok.
Vous avez de quoi noter pour le numéro de téléphone ?
Non, parce que là, je suis au volant, là.
D'accord.
Ah, d'accord. Bon, je donne au cas où vous pouvez retenir. Donc, c'est 0269 60 28 92.
60 28 92.
Merci.
Merci à vous. Merci. Dans tous les cas, vous êtes conviés à venir à Chicony samedi 21
septembre.
21 septembre. Oui. Ce week-end avec votre maman.
Place Psychotrame.
Merci.
Merci monsieur pour votre question.
Bon
alors,
courage.
On va poursuivre un peu plus. Alors, nous avons une question de monsieur Bakar qui cherche à savoir comment faire pour avoir une consultation et où.
Alors, pour avoir une consultation, comme on vient juste de vous dire, il y a un numéro de téléphone, donc c'est le 02 69 60 28 92. Le siège est à Chicony, le siège de France Alzheimer Mayotte. Donc vous appelez à ce numéro et on vous fixera un rendez-vous pour les consultations.
Allez, nous poursuivons avec un autre auditeur au 60101, toujours pour les questions. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame, bienvenue sur les ondes de la première. Vous êtes ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je m'appelle Chamon.
Mmh. Bienvenue.
Merci beaucoup. J'écoute l'émission depuis quelques moments. Là, j'ai même envoyé un message sur Facebook. Mmh. En fait, j'ai plus retenu ce qui a été dit au départ. C'est que, oui, on remarque qu'il y a un souci à propos de nos aînés. Mmh. La première chose que j'avais essayé, en premier temps, c'est de lui faire changer d'environnement. Mmh. C'est-à-dire de l'amener là où il avait vu, où elle avait vu depuis 10 ou 20 ans, ou 35 ans avant même. Mmh. Et j'avoue que en revenant à la maison, les conditions étaient complètement différentes. Ça n'avait plus rien à voir de la personne qui était restée pendant 15 ans à un seul endroit, en fait, à un seul lieu. Et moi, pour moi, ça fait quelque chose qui fait que la personne n'est... Au final, en fait, on est parti voir le médecin et c'était juste la routine de des années qu'elle a subi, en fait, qui a fait qu'elle soit comme ça. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est le fait que nous, à Mayotte, on a toujours eu l'habitude où nos anciens, nos grands-mères, nos grands-pères restent à la maison, qui ne bougent pas, qui ne voient pas le monde évoluer autour d'eux, et du moment, dès qu'elles les voient, je crois qu'ils se mettent en situation de panique, en fait. Et d'un coup, ils préfèrent celles qu'ils avaient vécues avant, où ils sont dans un état où ils sont bien, ils sont mieux. Ils n'ont pas un état de stress, d'achat à tout bout de champ, en fait. Mmh.
Alors, on va vous répondre. Je vous invite à rallumer votre radio et nous allons vous apporter la réponse que vous souhaitez. Docteur, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet auditeur ?
Alors, si j'ai bien compris, vous parlez de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Et quand la maladie a commencé, quand la maladie a déjà commencé, la personne est dans une situation assez vulnérable. Et elle a du mal à s'adapter à des nouveaux environnements. Hein. Donc, elle a plutôt tendance à se replier sur elle-même et à ne plus anticiper. Donc, la question que vous posiez, si j'ai bien compris, c'était de savoir s'il fallait plutôt faire voyager ou bouger quelqu'un qui avait une maladie d'Alzheimer ou pas. En fait, quand la personne déclare une maladie d'Alzheimer, la laisser dans son environnement quotidien est meilleur pour elle puisqu'elle n'a pas à se réhabituer à chaque fois à de nouveaux repères. Maintenant, j'entendais aussi que vous disiez que est-ce que le fait de ne pas avoir vu ou d'être toujours resté au même endroit facilite la maladie ? Non, mais c'est vrai que la stimulation intellectuelle, le fait d'être confronté à la nouveauté, le fait de voir des nouvelles choses avant d'être malade, hein, contribue à développer ce que j'appelais tout à l'heure la réserve synaptique, et donc à protéger d'une certaine façon, en tout cas à retarder l'expression des symptômes. Donc, mais ça, c'est vrai aussi, même quand la maladie a commencé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic précoce pour, s'il y a une maladie d'Alzheimer, stimuler la personne le plus possible, mais éviter de la promener trop pour éviter qu'elle perde, qu'elle change tout le temps de repère. Puisque c'est justement une des difficultés de la maladie, c'est de pouvoir se repérer aussi dans le temps et dans l'espace. J'espère que j'ai répondu à peu près à votre question.
On espère. Dans tous les cas, bon, on invite l'auditeur, si la réponse n'a pas été claire, il peut nous recontacter à tout moment, 60-0101. Alors, quel sens, quel objectif pour la célébration de cette journée qui est mondiale? Quel est le sens, Madame Zalia?
Ben déjà, pour la célébration de la journée mondiale, hein, tout ça, ça nous permet au fait de sensibiliser hein, tout public. Mm-hmm. Parce qu'on sait que les maladies neurodégénératives, hein, les familles, c'est au quotidien. Et donc cette journée nous permet quand même déjà aujourd'hui de parler devant vous, hein, sensibiliser toute la population. Et le 21, ça va être plus grand encore, parce que ceux qui vont venir, ils auront la chance de poser leurs questions aux spécialistes qui seront là. Il va y avoir aussi des autorités qui sont là. Hein. Chacun, on se pose les questions. Et comment faire? Est-ce qu'il y a des choses adaptées pour tout ça? Donc, ça va être l'occasion de se mettre autour d'une table et de réfléchir à ces genres de pathologies. Quoi.
Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne à la place de la famille, l'aidant. L'aidant, quelle est sa place? Cet aidant, celui qui accompagne, celui qui vit avec celui qui a cette maladie au quotidien. Comment, lui, il vit cette maladie à travers sa famille, son proche? Et comment, lui, il se ressent au quotidien? Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide à celui déjà qui est aidant lui-même?
Si je retourne un petit peu par rapport à la question que vous avez posée à Zalia sur les thématiques de la journée mondiale, donc on a dit qu'il y a les droits des personnes atteintes par cette maladie, donc ça fait partie des problématiques que posent les aidants à la maison, parce que quand ils sont à la maison avec leurs parents, des fois il y a les dossiers à monter pour trouver les aides à domicile. Il y a aussi les aides concernant les rechanges ou bien autre droit des malades, parce qu'il y a les lits, il y a les, ils sont fatigués d'être enfermés, les malades sont fatigués d'être enfermés.
Isolés.
Si on ne dit pas, mais visuellement, quand on les voit tout le temps, c'est Madame Bénédicte tout à l'heure a dit que c'est pas bien de les fermer tout le temps, mais aussi il faut aussi les faire sortir de temps en temps, mais pas tout le temps, et que les aidants étant toutes seules ou à deux ou à trois, ils se demandent comment je vais m'en sortir avec mon malade. Comment je vais obtenir des aides, où je peux y aller. Donc tout ça, ça fait partie des problématiques des aidants, qui est surtout quand ils se trouvent tout seuls.
Alors vous me permettez de rebondir un peu sur vos dires. Quelle est la prise en charge au niveau de cette maladie et de quelle manière elle peut s'opérer, la prise en charge, s'agissant de l'aidant, mais aussi du malade lui-même?
Pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'y a pas à Mayotte.
D'accord.
Pour l'instant, il n'y a pas à Mayotte, mais là, c'est ça ce que notre combat, surtout cette année, à travers les structures, la caisse, parce que quand j'ai quelqu'un qui est malade et que je veux savoir quels sont les droits, je ne sais même pas où me présenter. chez qui ou avec qui, comment faire. Donc, le samedi, le 21, il aura la caisse, il aura toutes les structures qui pourront nous aider à définir les endroits et les droits aussi, et comment faire, ou par où y aller pour s'en sortir.
Est-ce qu'on peut dire, du fait que maintenant l'ARS va exister sur le territoire et on aura un ARS dédié spécifiquement à Mayotte, est-ce que ça pourra faire avancer les choses, surtout pour la prise en charge?
J'ai dit oui, parce que c'est notre premier partenaire et on compte toujours sur eux parce que c'est leur domaine. Je souhaite, mais je ne peux pas vous dire oui parce que je ne connais pas tout. Mais moi aussi, je suis là pour découvrir et pour chercher.
Allez, nous revenons à notre auditeur au 60101. Rebonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce qui n'a pas été clair dans les réponses? Est-ce que vous pouvez rajouter?
C'est bien clair, mais j'ai une autre question.
D'accord.
Il faudra favoriser quelle situation? Celle où notre patient connaît le mieux l'endroit, connaît le plus, qui a déjà croisé beaucoup de monde, qui connaît le terrain, où il faut l'amener sur une terre inconnue, en fait, qu'il n'a pas exploré, plus ou moins.
Merci pour votre question. Je vous invite à rallumer votre radio. On va vous apporter la réponse.
Alors, quand la maladie d'Alzheimer a démarré, non, il ne faut pas l'amener sur une terre inconnue. Enfin, le moins possible. Si on peut éviter, il faut le laisser dans un endroit connu, puisqu'il a du mal à apprendre des nouvelles choses. Donc, et que petit à petit, il a tendance à perdre ses repères. Donc, il faut le laisser dans l'endroit le connu.
Aussi simplement.
Aussi simplement. Voilà, c'est pour répondre à la question.
Alors, France Alzheimer Mayotte a choisi comme thématique, ou on va dire, c'est tout le réseau France Alzheimer. Vous avez choisi la thématique pour cette année 2019, les droits des malades et des aidants familiaux et autres. Quelle est l'importance de cette nouvelle thématique?
Le chef.
Madame la Présidente, s'il vous plaît.
Si on a choisi ça, ce n'est pas pour rien. Mais il se trouve qu'à Mayotte, et on se plaint beaucoup, qu'à chaque fois qu'on amène des dossiers dans les bureaux, c'est, je ne sais pas quel terme je vais utiliser, mais on met des coquillages là-dessus.
D'accord.
Et souvent, les malades restent jusqu'à ce qu'il est décédé et il n'y a rien qui est fait. Donc, et aussi, il y a aussi des familles qui sont démunies, excusez-moi.
Démunies, oui.
Et ils ont besoin d'aide au niveau d'acheter des provisions pour le malade. Et aussi les aidants, si on reste souvent toujours collé devant le malade, on ne s'en sort pas.
On finit par broyer du noir, vous voulez dire?
Pas tellement, mais...
On finit par tomber malade.
Mourir même. Moi, je veux dire, il faut avoir un temps de repos. Quand un aidant travaille, un aidant qui a une autre famille, là, je dis vie maritalement. Quand un aidant, il est avec le malade en personne, là, il n'a pas le temps. Il veut voir sa mère ou son père ou son frère. Il veut aller au boulot. Il veut voir ses enfants. Il faut s'occuper ceci, cela. Il y a tout ça. Mais donc, quand on s'occupe des aidants, c'est donner un petit moment de repos, de répit, parce que les heures des auxiliaires de vie sont très, très, très insuffisantes, surtout avec la personne malade d'Alzheimer. Et souvent, on se plaint et que la population dise que non, tu es fatigué de ta mère ou ceci ou cela, mais on n'est pas fatigué. Mais on a besoin d'un moment pour se reposer un petit peu.
Alors, je vous propose de repartir, toujours au téléphone, au 60101, avec un autre auditeur, Monsieur Ali Nizari, depuis Banabois. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, dames, bonsoir à vos invités.
Bonsoir.
Siti, bonsoir, Zalia.
Bonsoir.
Moi, je n'ai pas une question particulière, parce que je sais que ces trios répondent à toutes les questions et sont extrêmement livrent des interventions de qualité. Moi, c'est juste pour témoigner un peu de ce travail-là, parce que j'ai eu la chance au début de faire partie des personnes qui avaient plus ou moins réfléchi sur le sujet. Aujourd'hui, je me réjouis de voir vraiment comment ce dossier a évolué et la qualité du travail fourni par cette équipe. Moi, j'y crois. Et de toute façon, les événements comme celui de samedi, c'est de cette manière-là qu'on pourra attirer l'attention de l'opinion publique pour prendre très au sérieux ce sujet, parce que c'est un sujet mondial, hein, ça ne concerne pas que Mayotte, d'autant plus que ici à Mayotte, nous sommes partis de loin, parce que au départ, lorsqu'on a mené ces réflexions, les gens disaient « oui, vous vous trompez, il s'agit ici d'autres facteurs, hein, des djinns, etc. » Mais aller jusqu'à attirer l'attention du pouvoir public aujourd'hui, parce qu'il y a la Caisse, il y a le Conseil départemental, l'ARS, qui participent à ce genre d'événement, pour moi, c'est une première victoire. Deuxième victoire, tout à l'heure, Adam, vous avez posé la question de savoir si l'ARS va accompagner. Moi, je pense que le train en marche, vraiment, parce qu'il y a Zalia. Il faut vraiment insister sur cette personne qui... nous avons repéré Zalia il y a une dizaine d'années sur cette thématique. Et aujourd'hui, je salue la qualité de son travail, sa manière de fédérer tout le monde. C'est une qualité qui est là. Et puis aussi... sont infatigables à chaque fois, tous les sujets, tout le temps, il est sur cette question. Moi, vraiment, je rends hommage à son travail. Et il est tombé sur ce grand city qui au départ était une aidante. Aujourd'hui, elle est la présidente. Et franchement, on a ce qu'il faut pour avancer le dossier. Vraiment, c'était pour témoigner. Et enfin, pour dire que l'UDAF est derrière tout ça, ils le savent, j'ai pas envie de dévoiler des détails, mais c'est une association qui est extrêmement prise très au sérieux au sein de l'UDAF. Donc voilà, continuons, on se voit samedi. On aura d'autres sujets à aborder ensemble.
Avant de raccrocher, M. Ali Nizari, donc vous venez de dire quelque chose qui est assez capital en disant que Mme Zalia, elle est là, elle porte ce projet, mais elle-même, à un moment, elle a été aidante. Donc je pense qu'à elle toute seule, elle toute seule, la présidente, a besoin qu'elle se sente épaulée, qu'elle se sente, je vais lui prêter les mots, elle a besoin de se sentir portée. Est-ce que vous pensez que l'UDAF, mais aussi toutes les institutions existantes sur ce territoire, peuvent rejoindre la présidente et toute l'équipe de France Alzheimer Mayotte et porter ce projet haut, je veux dire aller même au niveau national pour que ce combat puisse être pris en charge sur notre territoire. Nous ne pouvons pas tout le temps être les derniers roues de la carrosse.
Bien sûr, vous avez raison. Comme je l'ai dit, nous sommes partis de loin et aujourd'hui, on commence à voir l'implication du conseil départemental, de la Caisse, de l'ARS. Et ça, au départ, je vous assure que il n'y avait pas tout ce travail-là. Donc moi, j'y crois, et que Zalia ne dit pas tout, mais... Et il a déjà fait des pas jusqu'au niveau national. Mm-hmm. Il a impliqué tous les parlementaires. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs fois sur la route de Paris sur ce dossier. Et moi, à chaque fois qu'on se voit, j'essaie plus ou moins aussi d'indiquer que à l'UDAF, on peut aussi éventuellement s'impliquer, ne serait-ce que pour encadrer les aidants familiaux, les former, etc. Donc moi, je pense que c'est un dossier qui est en cours et qu'il faut... c'est vrai qu'ici, il y a souvent des choses, il y a des étapes à franchir. Ils ont franchi pas mal d'étapes. Maintenant, il faut travailler sur le terrain. Et c'est justement au moins de ces actions comme celles qui est organisée samedi qu'on pourra à chaque fois tirer l'attention de tous. Sur les thématiques, mais le travail est là et il faut le saluer déjà et voilà.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci.
Merci. Allez, nous poursuivons avec un autre auditeur au 600101 pour rebondir encore un peu plus. Bonsoir, madame Roukia, depuis Mtsapéré. Bienvenue sur les ondes de la première.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir, les filles.
Bonsoir, Siti.
Bonsoir, Zalia. Bonsoir, Bénédicte.
Bonsoir.
Bonsoir, tout le monde. Ben, je vous appelle déjà pour faire un petit coucou.
Merci.
Et pour vous dire que je fais partie des membres fondateurs de France Alzheimer Mayotte. Mm-hmm. Et ma question s'adresse à Bénédicte. Je voulais savoir si arriver à un stade où la personne n'arrive pas à aligner une phrase pour communiquer. Est-ce qu'il y a un exercice spécifique pour aider le ou la malade à faire ne serait-ce qu'une phrase?
Alors,
merci beaucoup, Madame Roquia, pour votre question.
Merci.
Dans la si la personne dont vous parlez a une maladie d'Alzheimer, le langage se déstructure petit à petit. Alors, donc le langage devient difficile. Il faut lui parler doucement, il faut lui parler en face, en la regardant en face, et éventuellement lui faire répéter des choses ou dénommer des choses. Mais ce qui est important, quand le langage est touché, c'est de mettre en place des stratégies de communication non verbales, qui n'utilisent pas le langage. C'est-à-dire le regard, le sourire, le toucher. Puisque de toute façon, dans cette maladie, malheureusement, quand le langage part, ça fait partie du tableau. Alors il faut s'adapter avec... Si on a de la chance ou le moyen de le faire, les orthophonistes peuvent aider. C'est leur métier. Et peuvent essayer de... en stimulant les fonctions langagières et l'ensemble des fonctions intellectuelles, éviter que ça se dégrade trop vite. Ça, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire l'intérêt de faire un diagnostic précoce, le plus précoce possible, pour prévenir, ralentir en tout cas le déclin cognitif, le déclin de toutes les fonctions intellectuelles.
Merci beaucoup pour votre réponse. Avant d'en venir au programme, moi j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les détails. Surtout, le côté spécifique en fait à Mayotte, cette maladie évoque également des idées reçues. Pourquoi ? Parce qu'elle est méconnue. Il y a des préjugés autour de cette maladie d'Alzheimer. Ses conséquences, certains l'assimilent à la folie, d'autres disent que c'est une conséquence de vieillissement de l'être humain qui touche notamment la mémoire. D'autres même iront jusqu'à dire c'est les djinns. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever tous ces idées reçues et ces a priori qui posent une réelle difficulté? Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, que beaucoup de personnes dans notre société ont honte. On a une personne qui est malade chez soi, on a honte de cette personne. Or que on a la capacité, voire même la possibilité de pouvoir aider cette personne en allant voir un spécialiste. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui certainement ont une personne de leur famille qui se retrouve dans ces cas-là, que ces personnes-là sortent de leur placard et qui viennent tous le 21 septembre à Chikoni?
Moi, j'ai dit seulement, il y a une seule phrase, c'est changer le regard à travers cette maladie. On ne peut pas dire qu'elle est folle. Mmh. C'est une maladie comme les autres. On ne peut pas dire que c'est un djinn parce qu'on ne sait pas. Qui a dit que c'est un djinn? Est-ce qu'on a les preuves que c'est un djinn? On sait qu'elle est malade. On peut atteindre de la maladie d'Alzheimer sans avoir la diabète, sans avoir l'hypertension. Mm-hmm. On peut marcher. Bon, je donne l'exemple de ma mère. Elle n'est pas diabétique. Elle n'a pas l'hypertension. Elle marche. Mais c'est l'Alzheimer qui l'est attrapé. Mm-hmm. Donc, pour dire que les autres ne se fassent pas beaucoup des idées, moi je dis seulement il faut changer le regard. Parce que quand on change le regard, on dit que ça c'est une maladie comme les autres. Là, on a le courage de chercher partout pour avoir des réponses, même si c'est incurable. Mais on sait que en restant avec le malade, on change la façon d'être aussi. Parce qu'il y a aussi la façon d'être, il y a aussi la façon de faire. Parce que le malade ne doit pas être délaissé, ne doit pas être maltraité, ne doit pas aussi... comment je vais dire,
repousser,
là, repousser et mettre à l'écart. Parce qu'ils ont besoin de nous. Et il faut le dire, ils ont besoin de nous. Il faut savoir comment je vais vivre avec mon malade.
Allez, nous reprenons à notre auditeur 60-0101. Bonsoir, bienvenue. Nous avons perdu cet auditeur. Nous l'invitons à revenir, à nous appeler au 60-0101 avant que nous parlons du programme. Du coup, personne n'est à l'abri de la maladie de l'Alzheimer, y compris les jeunes, alors qu'on parle souvent que des personnes âgées qui sont concernées par cette maladie. Est-ce qu'on peut rester sur cette sur ce préjugé, Madame Zalia?
Ben, concernant les jeunes, hein, comme tout à l'heure, Madame de Fontaine disait concernant Mayotte, il y a tout ce qui est les AVC hein, qui touchent la plupart des jeunes aussi. Donc, je pense il faudrait vraiment faire la prévention. Hein.
De quelle manière?
Donc, déjà, faire le bilan de santé chaque année, c'est primordial. Donc, je souhaiterais vraiment lancer cette campagne de sensibilisation dès l'année prochaine et tous ensemble pour qu'on puisse déjà faire un état de lieu et avancer ensemble, quoi. C'est pour moi, je me suis dit, Mayotte, certes, elle est jeune, mais cette jeunesse-là, d'ici 15-20 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Si on prévoit pas dès maintenant des structures adaptées ou la prévention, ça va être, je sais pas. Là, franchement, il faudrait dès l'année prochaine qu'on travaille et dès le 21 septembre qu'on y réfléchisse vraiment à comment on va avancer et comment on va faire. Face à ces pathologies qui sont vraiment complexes et compliquées.
Et en termes de structure, qui on doit interpeller pour que ces personnes prennent leurs responsabilités, mais aussi pour que ces personnes voient plus loin? Mayotte d'avant ne peut pas rester, Mayotte d'aujourd'hui ne peut pas rester toujours le Mayotte d'avant. La société évolue au quotidien. Il y a quelques années de ça, personne ne pensait pouvoir utiliser un téléphone portable. Il y a certaines nécessités qui commencent à rentrer au fur et à mesure sur ce territoire. Comment peut-on arriver à faire toucher du doigt nos responsables, notamment nos élus, qui a cette nécessité, ou y a-t-il besoin que ces mêmes personnes, que ça soit un de leurs proches, peut-être, je ne leur souhaite pas, qui se retrouvent dans ce cas-là pour qu'on se sent concerné? Est-ce qu'il n'y a pas une réelle prise en compte, une réelle prise en question, se poser la question, cette maladie existe? Pas mal de maladies existent sur ce territoire. Allons tous ensemble se lever, faire évoluer les choses dans notre société, mettre en avant des structures adaptées pour nos futurs malades.
De toute façon, concernant ces pathologies, hein, je pense hein, qu'on est tous responsables. Parce que déjà, il y a les autorités, hein, tout ce qui est en rapport avec les structures, mais il faudrait que chacun, au fait, prenne soin de soi-même. De toute façon, il faudrait prendre soin de soi-même avant de prendre soin des autres. Donc, si on revient sur tout ce qui est, en termes d'AVC, c'est pas, madame, docteur De Fontaine qui va vous dire, par exemple, vous êtes là avec l'hypertension, elle va poser le diagnostic. Mais bon, après, c'est à nous de respecter, et de respecter, je peux dire, le protocole, le traitement. Comme elle a dit tout à l'heure, quand on est diabète équilibré, on me dit « Ah oui, j'ai plus de diabète, donc c'est équilibré. » Non, c'est à vie. Donc, il faudrait vraiment qu'on y travaille ensemble, que quand on est touché par n'importe quelle pathologie, mais on nous donne des traitements, il faudrait respecter. Quand on vous dit c'est un traitement à vie, c'est à vie. Eh bien, quand on arrête le traitement, hein, ben c'est les maladies qui reviennent ou plus graves, quoi.
Allez, je vous propose de prendre un auditeur au téléphone. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de la première.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir madame. Vous êtes?
Moi je suis Yasmina Bobé.
Bienvenue madame Bobé.
Oui, merci. Cette émission m'intéresse énormément et m'interpelle. Et c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Alors moi, ma question c'est, est-ce qu'il y a des solutions naturelles pour empêcher notre cerveau de nous jouer des tours? Bon, moi j'essaie tous les jours de pratiquer enfin, des solutions naturelles. Et je ne sais pas, peut-être que vous pourrez m'aider, me dire si je me trompe ou pas.
Qu'est-ce que vous sous-entendez par des solutions naturelles?
Voilà, par exemple, se lever le matin, boire un litre d'eau riche en sels minéraux, ensuite boire du jus de coco, c'est à la portée de tous, se faire un jus maison, manger une gousse d'ail, du curcuma et du miel avec un petit yaourt. Faire dans la journée au moins 10 000 pas, ne pas rester inactive. Pratiquer par exemple de l'automassage, parce que je pense que si on s'aime soi-même, on peut être bien, on peut être bien avec, avec son corps, quoi. On peut, à partir du moment où on prend soin de soi, on se dit, on ne déprime pas, on ne se laisse pas aller. Donc c'était ma question, par exemple, pratiquer le jardin, c'est... le fait de bouger, de ne pas rester en position assise toute la journée. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous invite à rallumer votre radio. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditrice?
Alors oui, c'est la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des solutions naturelles. Et c'est ça qu'il faut absolument mettre pratiquer. En place, pratiquer, et même le plus tôt possible. Alors, vous l'avez dit, faire de l'activité physique adaptée, dont on en parlait tout à l'heure, l'adaptation dépend de la personne, en fait. Mais dans ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, il y a l'alimentation, ça c'est vrai que c'est important, mais il y a aussi il y a l'activité physique, mais il y a aussi l'activité intellectuelle. L'activité intellectuelle, toujours essayer de d'être confronté à la nouveauté, d'anticiper, de bouger, de voir des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes. De se confronter à des nouvelles idées avec les nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose qui va développer votre réserve synaptique.
Être dans l'échange.
Être dans l'échange, dans le partage. C'est quelque chose qui va développer votre... échanger vos idées, les confronter à celles des autres. C'est quelque chose qui va vous aider à développer votre réserve synaptique, donc à créer des de nouvelles connexions synaptiques. Et si jamais la maladie d'Alzheimer apparaît, à ce moment-là... La lésion donc va apparaître à un endroit, mais si vous avez une réserve, c'est-à-dire créer des routes parallèles, vous pourrez ne pas exprimer les symptômes. Donc tout ça sont des solutions naturelles. Alors il faut trouver une activité intellectuelle qui vous plaise, une activité physique qui vous plaise, une alimentation qui soit équilibrée, et puis un environnement social et familial riche, ça c'est l'idéal, hein, bien entendu.
Un environnement sain.
Non, moi j'ajoute aussi éviter d'avoir des problèmes qui te rendent stressée, nerveuse, tout ça, parce que ça aussi, ça crée des hypertensions et du coup, ça te fait réfléchir avec beaucoup des idées qui ne sont pas très bien. Après, du coup... ça va mal, quoi.
Alors, moi, je voudrais soulever quelques voiles avant de passer au programme. On va prendre, par exemple, l'activité qui est le plus en vogue sur notre territoire, notamment les manzarakas, les mariages, je vais dire par là. C'est une activité qui génère beaucoup de choses, autant positif qu'autant négatif. Donc, il y a du stress, de la densité de l'action, parce qu'on est là, on bouge à droite, à gauche, on fait pas mal de choses. Est-ce que cette activité va dans le bon sens pour pouvoir pallier à cette maladie, prévenir de cette maladie?
Moi, je vois deux choses qui n'est pas trop... moi, c'est le stress dans un bon sens, ça va. Mais stresser jusqu'à ce qu'on dépasse des limites, ça, c'est autre. Et puis aussi, je vois manger sain, mais il y a trop de boissons, il y a trop de sucrés. dans le Manzaraka. Et puis, il y a aussi l'activité physique, qu'on marche, on bouge, et aussi écouter de la musique, ou bien danser avec les autres, ça crée aussi de...
C'est un facteur de bien-être.
Voilà. Mais le boisson est stressé de telle manière à dépasser ou d'avoir des accrochages. J'évite.
Alors parlons maintenant du programme de cette journée du 21 septembre 2019 qui se déroulera à Chicony,
place
Psychotrame, la belle place de Chicony.
Exact.
Alors vous allez débuter par quoi et à quelle heure?
Normalement on débute à 7h, hein, accueil des invités. Après, il va y avoir l'ouverture du représentant de la commune du Chicony, les discours de la FMAPAR, hein, qui est notre papa, hein, parce que c'est avec la FMAPAR, la Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées et Retraitées. C'est avec la Fédération que nous avons commencé cette réflexion concernant la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc, on n'oublie pas, hein, Monsieur le Président, si tu nous écoutes, ben voilà, on ne t'oublie pas.
Bonsoir.
Monsieur Bakar Durami. Après, il va y avoir donc le discours, hein, de la représentante de France Alzheimer Mayotte. Il va y avoir les allocutions des officiels, conseil départemental, la Caisse de sécurité sociale, préfecture et autres ARS, hein, et tout. Et puis, nos chers invités, hein, donc Richard, qui est neuropsychologue, hein, donc il va débuter par le rapport d'activité de la consultation mémoire de Mayotte. Hein, donc, ça va faire pratiquement un an que nous avons commencé la téléconsultation, hein, consultation mémoire. Donc, ce 21, vous venez sur Chicony, il va vous dire exactement par rapport aux chiffres, par rapport au travail que nous avons fait avec le réseau Aloïs et docteur De Fontaine qui sera là aussi, hein, qui va parler. Et sans oublier notre docteur Abbé, monsieur Georgius Gruchette, qui est notre partenaire aussi de France Alzheimer Réunion, qui viennent sur les territoires pour les formations des aidants, hein, et des groupes de parole aussi. On sait très bien par rapport à ces formations des aidants, c'est vraiment primordial. Hein. Les familles qui viennent en formation de 2 jours, quand elles sortent, elles me disent « mais vous étiez où depuis tout ce temps-là ? » On aurait pu accompagner nos proches autrement si on avait ces formations.
Et donc, du coup, quelle est la nécessité, l'importance de pouvoir mettre cette formation en place?
Ben déjà, rien que là, pour ces 2 jours de formation, une personne qui comprend déjà ce qu'est ces pathologies et comment accompagner leurs proches. Ils sont vraiment, en sortant de la formation de 2 jours, ils sont vraiment soulagés parce qu'ils ont compris que, voilà, c'est pas la folie, mais c'est une maladie et comment je vais accompagner mes proches. Avec des approches non médicamenteuses, comme on dit, il n'y a pas de médicaments pour guérir ces pathologies, mais il y a d'autres stratégies à adapter à chaque personne.
Et chaque situation.
Exactement.
Et nous arrivons à midi.
Ben, à midi, hein, comme je vous dis, ça va être docteur Elhad Mohamadi, hein, le médecin traitant qui nous accompagne aussi, qui travaille avec nous. Après les diagnostics et post-diagnostics, donc il y a l'orientation par rapport au bilan. Donc c'est à lui aussi d'orienter les familles pour tout ce qui est IRM ou d'autres examens complémentaires à faire. Hein. Après, hein, c'est pause-repas. Et n'oubliez pas, l'après-midi, ça va être les chengues. Venez.
Le show.
La clôture de la journée.
Oui. Voilà.
Mais au sein de, avant de passer, en même temps que vous passerez la partie repas, les gens vont pouvoir bénéficier des animations. Il y a aussi des visites des stands. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces différents stands?
Dans différents stands, il va y avoir donc l'UDAF, hein. l'UDAF, le conseil départemental, les associations des services à la personne. Il va y avoir aussi d'autres partenaires qui souhaiteraient vraiment accompagner, hein, nous accompagner. Donc, ils seront là ce jour-là. Donc, n'hésitez pas à venir vous voilà, renseigner le 21 à Chiconi, place Cicotram, capitale de l'ambiance, bien sûr.
Moi, j'ajoute que ça sera un show parce qu'il y a le Maulid d'Achengue et ça sera, il y a les gens de quoi? Les gens de Chiconi et toute la population peuvent venir, la population de Mayotte. Vous êtes invités à cette animation Chengue, spécifique Chengue.
J'aimerais qu'on parle un peu de vos partenaires. Qui vous accompagne dans ce projet, dans cette belle journée du 21 septembre?
Le chef.
Zalia, tu y vas.
Eh bien, par rapport voilà, aux partenaires, hein, donc on a pas mal de partenaires qui nous accompagnent. Le conseil départemental, la préfecture, la caisse de sécurité sociale, l'ARS, il y a France Alzheimer, l'Union des associations France Alzheimer, il y a UDM, le réseau Aloïs est là, et les mairies, hein, sans oublier Kanikeli, Zamboro, Chiconi, Aokua, la plupart voilà, des mairies sont là, ils nous accompagnent, l'UDAF. Les médias aussi, hein. Je sais que Mayotte la Première est là, Kouizi et les autres médias, Chiconi FM. Donc il y a l'UDCCAS aussi. Il y a, donc il y a tout le monde, hein, la CRES, BGE. Donc maintenant, de toute façon, France Alzheimer est connue à Mayotte, donc nous travaillons ensemble.
Et c'est Chiconi qui embellit. Alors, et du coup, je vais emprunter quelques mots de mon confrère Emmanuel Toussevo, Diasamou. Quels sont les projets à moyen et à long terme de France Alzheimer Mayotte?
Donc, les projets de France Alzheimer Mayotte, hein, déjà, nous avons les formations des aidants. On a aussi les groupes de parole. Il y a aussi les formations des professionnels de santé, donc c'est en collaboration avec le réseau Aloïs. Il y a aussi des projets concernant les bus, donc c'est vraiment les bus itinérants. Donc on aimerait bien aller sensibiliser, mais c'est vraiment de secteur en secteur. Aller en partenariat avec le réseau Aloïs ou d'autres partenaires et on se retrouve par exemple tel jour le lundi par exemple au nord, donc c'est vraiment faire des programmes et on sait très bien après ça va être publié, on sait que chaque secteur ils auront des jours où France Alzheimer sera présent et pour tout ça. Et nous le ce qui est vraiment c'est un rêve, mais je sens que ça va se réaliser. C'est vraiment les plateformes de répit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les familles viennent, voilà, pour les téléconsultations, ils viennent diagnostiquer. Leur proche est atteint par la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Mais après, est-ce que on aura un temps de répit? Est-ce que il y a un endroit, un centre où on peut aller, ça en reste qu'une heure ou deux heures, pour que les proches soient accompagnés et les familles puissent aller faire les démarches. Ça en reste même peut-être un week-end. On a envie des fois de se reposer.
Par exemple, un centre balnéothérapie, par exemple, qui permet de
vacanciser. Oui, un centre de répit, un centre d'accueil de jour. Pourquoi pas? Nous qui travaillons, parce qu'avant, on est tellement entourés par la famille. Avant, la plupart des femmes ne travaillaient pas. Donc, elles étaient là, accompagnaient leurs proches. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, ça, j'oublie pas. Hein. À 4 heures du matin, déjà sur la route pour aller travailler. Et si demain, dans ma famille, il y a une personne qui est touchée, comment je vais faire s'il n'y a pas des structures adaptées? Et on rentre, il est 18 heures, tu arrives chez toi, 19 heures, voire 20 heures. Donc, il y a aussi, docteur De Fontaine, il ne faudrait pas oublier, tout ce qui est le sommeil. Mieux dormir, c'est quelque chose. Et Mayotte, maintenant, c'est de plus en plus, on dort mal. On se lève tôt, on rentre tard. Ah. Donc, les 8 heures de sommeil, des fois, des 8 heures, mais il y a certains qui font 3 heures, voire 4 heures, hein. Peut-être moins.
Et du coup, il y a cette nécessité à pouvoir changer, voire même modifier ce mode de vie que nous opérons depuis quelques années.
Exactement.
Qui va peut-être tendre à nous approcher.
Télétravail, ça existe. Mm-hmm. C'est pas, donc on peut imaginer qu'un jour, voilà, on développe tout ça sur Mayotte. Parce que, je vous le dis, hein, d'ici 15 ans, peut-être le nombre d'arrêts maladie, parce que, voilà, on n'arrive plus, nombre d'accidents aussi. Hein. On dort mal, il faudrait tout le temps courir pour arriver à temps au boulot. L'embouteillage, on s'agresse, on est fatigué au volant à un moment donné. On va développer de toute façon.
Merci,
là, on
mesdames.
Développe
donc
déjà.
Avant de terminer cette émission, nos auditeurs nous excuseront. Nous n'avons pas pu parler en maoré. Mais bon, je pense que le message est passé. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'ensemble de nos auditeurs, nos auditrices, pour que Chikoni, capitale de l'ambiance, soit envahie par l'ensemble de la population mahoraise, tout en sachant que ce week-end, bien qu'il y a les journées du patrimoine, vous aimerez bien que Chikoni soit envahie.
Chikoni, on aimerait bien que Chikoni soit envahie. Chikoni, c'est Mayotte. Mm-hmm. On aimerait bien que Mayotte soit envahie par la joie, par le bonheur et par le courage de vouloir faire. Donc, on vous invite, la population de Mayotte, à venir nombreux et nombreuses à Chikoni le 21 septembre pour cette manifestation pour participer à cette journée mondiale d'Alzheimer. Sachez que tout le monde naît à l'abri de cette maladie.
Et nous arrivons à la fin de notre émission. Il est 21h47 sur les ondes de la première. Merci d'avoir honoré notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Madame Zalia Amada Faki, je rappelle, vous êtes la chargée de mission de France Alzheimer.
C'est exact.
Sur le territoire de Mayotte. Merci à vous, Madame Bénédicte De Fontaine. Vous êtes docteur, neurologue et directrice du réseau Aloïs. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci.
Oui.
Merci à vous, Madame Sitina Anli. Vous êtes la présidente de l'association France Alzheimer Mayotte.
Exact.
Merci aux auditeurs qui ont participé à cette émission et ceux qui nous ont suivis. Chères auditrices, chers auditeurs, c'était Parano. L'émission a été réalisée au niveau de la technique par François Moissouli en collaboration avec Eladj. Nous vous remercions pour votre fidélité. Agréable fin de soirée à tous à l'écoute de la première et restez connectés. Merci à vous.